à l'écoute des Africains, de leur communauté humaine et religieuse, leur culture et tradition, leur Église. Une émission préparée par le groupe de concertation du Centre Amani Pastoral Africaine, présentée sous la responsabilité du Père Jan Lens des Missionnaires d'Afrique, Père Blanc. Paix à vous qui êtes à l'écoute, chers auditeurs, chères auditrices. Nous avons l'occasion, à deux reprises au cours de l'année, de vivre une solidarité bien particulière. Chers auditeurs, chères auditrices, vous vous rappelez que l'Avent, il y a quelques mois, nous a invités à vivre une solidarité locale avec ce qui vit dans notre pays. Mais nous sommes arrivés à ce deuxième moment, et ça se vit au cours du carême, les 40 jours, c'est la solidarité avec les gens qui habitent en dehors de nos frontières. Nous élargissons notre cœur pour les atteindre, pour les accompagner sur la route du bonheur. C'est notre engagement et nous avons le bonheur aujourd'hui de rencontrer une équipe de ce carême de partage. Et en particulier, j'aimerais vous faire connaissance avec Madame Anne Le Garrois. Madame Anne, bienvenue. Est-ce que vous pourriez nous situer un petit peu l'action du carême ?
Bonjour Yann, bonjour Patient qui est aussi dans le studio. Bonjour. Oui, la campagne de carême de partage depuis 6 ans déjà maintenant soutient l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne qui veut apporter une solution au problème de la faim dans le monde. Parce que la faim dans le monde reste un phénomène malheureusement fort préoccupant. Encore 1 milliard de personnes sur Terre sont victimes de la faim. Et donc le slogan de notre campagne de cette année-ci, c'est « Soutenir les paysans, c'est combattre efficacement la faim ». Parce qu'on se rend compte que 58% de la mortalité dans le monde est encore due à la malnutrition et qu'elle ne cesse malheureusement de progresser depuis 10 ans. Et donc, les grandes firmes de l'agro-business qui veulent nous faire croire que seule une agriculture productiviste et intensive va sauver l'humanité de la pénurie alimentaire globale qui nous attend est une fausse idée. Et c'est cette idée centrale que nous voulons faire passer donc, dans le cadre du carême de partage, en tout cas avec le public chrétien. Donc c'est de dire que nous avons tous, tout un chacun, une responsabilité individuelle et une responsabilité collective.
Madame Anne, vous rejoignez certainement le fin fond du problème. La faim dans le monde, je crois que ça nous regarde tous. Et votre action dans le vicariat de Bruxelles portera certainement des fruits. Vous avez invité un témoin. Est-ce que vous pourriez le présenter brièvement ?
Oui, nous avons invité Patient Bagenda Balagazi. Alors, Patient est le secrétaire général d'une association qui est soutenue par Entraide et Fraternité, qui est le comité anti-Bouaki, dans le sud Kivu, donc dans la région de Bukavu. Alors, c'est un témoin exceptionnel pour nous, et donc nous le faisons d'ailleurs passer dans plusieurs unités pastorales pour aller à la rencontre des chrétiens de Bruxelles. Et donc, Patient est engagé sur le terrain depuis plus de 30 ans, et est un fin observateur de la vie politique et sociale au Congo. C'est aussi un militant de longue date, puisqu'il a été le président du Conseil des ONG de développement du Sud Kivu, fin des années 80, début des années 90, président de la Société civile du Sud Kivu, début des années 90 aussi, et Patient a aussi publié un ouvrage dont le titre était fort évocateur déjà à l'époque, en 2003, Le Congo, malade de ses hommes, crimes, pillages et guerre au Congo.
Quelle perspective vous nous présentez avec ce Patient Bagenda Balagazi, un témoin, mais je crois que dans le cœur de beaucoup de nos auditeurs, il évoque aussi les grands horizons de l'Afrique. Monsieur Patient Bagenda Balagazi, soyez le bienvenu. Vous aimeriez ajouter quelque chose dans cette présentation qui nous émerveille.
Non, rien du tout, sauf que je vis à Bukavu, à l'est du pays, au sud Kivu. Voilà, je suis venu dans l'invitation d'entrée de fraternité dans le cadre de la campagne de Carême. Voilà, tout simplement.
Vous n'êtes pas un premier venu dans ce thème que Carême de partage nous présente.
Non, je suis dedans. Ça fait, comme on l'a dit, un peu plus de 30 ans. Je suis dans l'agriculture paysanne.
Vous permettez que je vous propose certaines questions à vous de nous faire découvrir la réalité qui vit chez vous et notre responsabilité qui nous incombe à partir de votre témoignage. Cette lutte pour le développement à la base, cette lutte contre la faim, est-ce que c'est vraiment quelque chose de journalier pour votre population ?
C'est une réalité, c'est tous les jours que les paysans se battent chez nous pour survivre, pour vivre. Nous avons un pays très riche en termes de potentialité, mais malheureusement parmi les plus pauvres du monde en termes de revenus de l'habitant, en termes de conditions de vie. En même temps, nous connaissons depuis près de 20 ans déjà une situation de guerre, de violence, de viol pratiquement permanente, journalière, qui font que la population se bat tous les jours pour s'en sortir. Et nous avons un peuple qui est à 80%, 85% dans l'agriculture, principalement ou uniquement l'agriculture paysanne. Donc les petites familles qui grattent la terre tous les jours pour y trouver de quoi manger. Et donc c'est une véritable lutte qui est menée sur tous les fronts pour que les gens tiennent. Et malheureusement, il y a des défis, il y a énormément de difficultés, mais c'est une lutte qui est évidente, qui est la permanente tous les jours.
Merci beaucoup, Monsieur Patient. Vous nous mettez déjà dans la réalité de votre pays et nos auditeurs ont l'habitude d'entendre des mauvaises nouvelles. J'espère que vous pouvez être pour nous un témoin d'une espérance qui se réalise au jour le jour. J'aimerais vous demander, le paysan agricole, agriculture paysanne, comme on l'appelle dans le thème, qu'est-ce que ça représente concrètement ?
Ça représente au Congo, comme j'ai dit, 80% de la population. 80%, 85%, 90%, parce que peut-être qu'on va en parler, l'agriculture paysanne ne se fait pas que dans les milieux ruraux, elle se fait de plus en plus aussi en ville, autour de la ville, dans les bidonvilles. Il se développe un nouveau terme aujourd'hui, l'agriculture urbaine, mais en réalité c'est le prolongement de cette agriculture paysanne au niveau des villes, du fait de la pauvreté.
Donc c'est une vie qui nous tient au jour au rythme de la nature, dans l'espérance que le champ nous rapporte le nécessaire pour survivre. Merci beaucoup de cette première vision. Nous allons écouter un petit peu la musique de votre pays qui nous enchante aussi pour que vous puissiez nous expliquer dans un instant la réalité du paysan tel qu'il vit et doit espérer un renouveau, un changement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes en compagnie d'une équipe de Carême de partage. Madame Anne Legarrois, qui tient le barreau dans cette action-là, et elle a invité pour nous un témoin du Congo de Bukavu. Nous connaissons un petit peu cette région, Monsieur Patient Bagenda Balagazi. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu le travail concret du paysan, ses espérances, ses déceptions?
Chez nous, les paysans se lèvent à 6 heures, déjà 5 heures, pour se préparer aux travaux des champs. Ils quittent la maison à 7 heures du matin. Ils restent au champ toute la journée mmh. jusqu'à 3h, 4h, en train de labourer une terre, parfois ingrate, on va en parler peut-être. À 4h, ils rentrent à la maison pour commencer à préparer à manger, jusque le soir, et tous les jours comme ça. Quand je dis les paysans, malheureusement, c'est beaucoup plus la femme, parce qu'en milieu rural, les travaux des champs sont en grande partie le travail de la femme. Et si on imagine les charges de cette femme au niveau domestique, en tant que mère, en tant qu'épouse, on se rend compte que c'est une femme qui travaille pratiquement 24 heures sur 24 sans repos. Et bien sûr, c'est du champ, c'est cette maman qui pratiquement fait survivre sa famille à partir des récoltes qu'elle a. Ces récoltes, parmi les déceptions, se sont avérées progressivement diminuées, alors que le nombre de personnes en famille qui veulent manger augmente, parce que nous avons un taux de croissance démographique assez élevé. Cette nourriture ou les récoltes diminuent parce que, comme je dis, il y a énormément de défis. La terre est devenue parfois ingrate. Nous avons des difficultés liées au climat. De plus en plus, changement climatique, perturbation du calendrier agricole. Nous avons des difficultés liées aux intrants, donc l'accès aux intrants, la possibilité que la famille ait les semences qu'il faut et les outils aratoires qu'il faut. Nous avons des difficultés liées aux érosions, à l'est du Kivu en particulier, le sud Kivu, c'est une zone de montagne avec une bonne pluviométrie qui fait que les bonnes terres s'en vont. Nous avons de plus en plus des difficultés liées à ces gros capitaux qui viennent prendre le terrain, qui occupent les terrains les plus fertiles malheureusement.
Merci de cette description et je suis très heureux de retrouver votre estime pour la femme, celle qui donne la vie par son travail, par son existence. Je crois que votre culture a beaucoup à remercier cette présence féminine dans la société. Vous décrivez un petit peu le monde très bas, très difficile de ces gens. Mais quand nous entendons dans notre Occident parler des grandes agricultures, des organisations agricoles, nous avons l'impression quand même qu'ils nous apportent quelque chose pour notre industrie, pour notre vie. Elles nous apportent garantie des produits de la terre. Comment est-ce que vous apercevez ça en contradiction avec ce que nous pouvons dire de bon?
Je pense que ce qu'on trouve chez nous, c'est qu'effectivement, dans les soucis que les paysans augmentent sa production, dans les soucis qu'ils se développent en termes de revenus, parce que le revenu financier provient des excédents de sa récolte qu'il peut vendre, nous nous rendons compte qu'il a besoin justement d'avoir des intrants et des intrants le plus améliorés possible, performants. Mais malheureusement, ces intrants qui viennent du modernisme ont tendance à poser plus de problèmes que davantage aux paysans. Nous avons de plus en plus les discours sur les engrais chimiques qu'on vante comme le miracle pour aider à sortir de la malnutrition, de la sous-nutrition. Oui. Mais ce qu'on a vu, c'est que ces intrants chimiques, ces engrais chimiques, posaient plus de problèmes aux paysans, en ce sens que quand on voit les coûts que ça coûte, et que ces coûts augmentent d'année en année, on se rend bien vite compte que les paysans deviennent de moins en moins exclus. Et quand ils restent dedans, ces produits se vendent de moins en moins parce qu'ils trouvent sur le marché des produits agricoles qui viennent d'ailleurs, qui coûtent moins cher que ce que lui propose.
Et la possession de la terre, est-ce que c'est un problème concret dans votre région à l'est du Congo?
C'est un réel problème. L'est du Congo est parmi les zones les plus peuplées du pays, avec des densités qui dépassent les 500 habitants kilomètres carrés, une densité rurale. Et des moyennes, finalement, des terres cultivables par famille qui ne dépassent pas les 25-30 hectares, hein, ce qui est minime, fortement minime. Alors qu'entre-temps, nous avons énormément de demandes de terres ou énormément de propriétés déjà acquises depuis longtemps, de grandes concessions, de multinationales. Nous avons deux grandes propriétés anciennes. Hein. Nous avons ceux qui ont des terres pour mettre le thé. Nous avons ceux qui disposent d'énormes étendues pour les quinquina. Et ce sont des multinationales qui ont refoulé pratiquement les populations sur les collines délavées par les érosions.
Donc, fondamentalement, il y a une concurrence entre agro-business et paysannat.
Une très très forte concurrence. Malheureusement, les paysans dans cette concurrence, ou l'agriculture paysanne dans cette concurrence, est perdante. Hein, parce qu'elle n'a pas les moyens de faire face à l'agro-business, à l'agro-industrie. Oui. J'ai dit tout à l'heure que non seulement il y a ces deux exploitants multinationales qui ont des terres fertiles, quinquinaté, mais nous avons de plus en plus de fortes demandes aussi de ceux qui veulent faire l'agriculture pour les biocarburants. Alors, cela amène un homme d'entrant. Le paysan est amené à vendre même le peu de terre qu'il avait encore, si pas à se l'avoir arraché. Et deuxième aspect, c'est le fait que, comme je l'ai dit, même si ces agro-industriels peuvent faire de l'agriculture, non seulement ils ne font jamais l'agriculture vivrière, et quand ils la font, jamais le paysan pourra entrer en concurrence avec eux par rapport à la qualité ou à la quantité de la production, également par rapport au prix. Et un troisième facteur, c'est le fait que le paysan va continuer à utiliser la roue parce qu'il ne saura pas accéder aux intrants que l'agro-industriel utilise et il ne sera jamais concurrentiel sur ce plan-là. Pour nous, l'agro-industrie, pour nous, est une menace réelle pour la paysannerie.
Merci beaucoup. Je dirais presque que vous nous faites rêver, mais dans le mauvais sens du mot, c'est un malheur qui nous arrive. Et nous essayons de nous rendre compte un petit peu comment notre style de vie et notre exigence des matières premières dans l'agriculture vous met en difficulté. Permettez un moment de répit, on écoute un deuxième morceau de musique de votre pays pour que vous puissiez nous dire un petit peu les chemins d'issue. Studio avec Madame Anne Le Garrois, responsable de Carême de Partage, qui nous ouvre les chemins et les yeux sur notre responsabilité et solidarité avec les peuples qui nous entourent, en particulier avec l'Afrique centrale, là où Carême de Partage a un projet déjà depuis pas mal d'années. Monsieur Patient Bagenda Balagazi, de Bukavu, nous fait comprendre un petit peu le thème, comme Carême de Partage nous le présente, que vraiment il y a une opposition entre l'agro-business et l'agriculture paysanne. Monsieur Patient, est-ce que, puisque vous venez de décrire un petit peu un cri d'alarme, Est-ce qu'il y a vraiment une espérance que votre action puisse aboutir?
Il y a une grande espérance. Et nous avons trois éléments qui fondent cette espérance. Le premier élément, c'est que pour nous, le développement de nos villages passe par le soutien à l'agriculture paysanne. Si on veut développer les villes, si on veut développer le pays, il faut absolument faire vivre les villages et donc faire vivre les paysans qui cultivent la terre. Ça, c'est un combat qu'on doit mener, dans lequel nous sommes engagés. Le deuxième élément d'espérance, c'est que nous avons un peuple qui résiste, qui a résisté, qui continue à résister depuis longtemps, qui sait déjà qu'il y a un réel problème par rapport à ces forces extérieures qui viennent distribuer des vivres, qui viennent faire miroiter le miracle des intrants chimiques et autres produits qui viennent de l'extérieur et qui s'organisent de plus en plus pour résister face à la poussée de ces intrants-là. Nous devons également résister. Nous avons un peuple qui sait qu'il a des problèmes parce qu'il y a un problème de gouvernance. Et donc la gouvernance, c'est aussi une condition et le fait qu'on s'engage là-dedans comme élément du combat pour le développement fait que le peuple continue à exiger la paix, la sécurité. Et pour nous, c'est une voie de sortie si jamais on y arrive. Et le troisième élément d'espérance, c'est que nous avons des acteurs non étatiques, des ONG, le cas de là où je travaille, avec des amis qui nous soutiennent en trait de fraternité, notamment qui est avec nous depuis pas mal d'années. Pour nous, c'est des alliances nécessaires qui nous montrent que si on se met ensemble, on peut réussir.
Et votre action contre le Bukaki, en fait, Bukaki, c'est le signe pour les enfants de la malnutrition.
Malnutrition, exact.
Est-ce que votre action a aussi une place dans toute cette espérance que vous décrivez?
Nous sommes aux côtés de la population, ça fait plus de 40 ans déjà. Et nous sommes une ONG de développement rural avec des programmes principalement axés sur l'agriculture, justement la sécurité alimentaire, l'écologie. Mais en même temps, nous disons que nous ne sommes qu'un accompagnateur. C'est la population qui doit se prendre en charge, qui se prend en charge. Et que ce que nous faisons, c'est juste notre part de contribution pour que les choses avancent, que la population se mobilise davantage. Et nous sommes confiants parce que nous avons des résultats chaque année, tous les jours, du travail que nous faisons.
Merci beaucoup. Madame Le Garrois, ça fait 6 ans que vous avez ce thème dans votre action. Est-ce qu'il y a vraiment un progrès, quelque chose de positif que vous avez annoncé, à regarder, le trouver?
Sincèrement, oui, parce que le public avec lequel nous travaillons se rend compte aujourd'hui que l'humanité est dans un choix entre deux modèles agricoles diamétralement opposés et que peut-être au départ, il y a 6 ans, le public n'en avait pas véritablement conscience parce que c'est directement lié aussi à sa propre consommation alimentaire et donc aussi à sa santé. Et donc je pense quand même que dans une ville comme Bruxelles, la plupart des gens veulent aussi avoir une consommation de qualité et une consommation donc qui les aide à avoir une bonne santé. Et aussi, moi, ce que je vois sur les 6 années qui se sont écoulées, c'est cette prise de conscience aussi des synergies et de la relation nécessaire entre des associations forces vives dans les pays du Sud et des associations telles qu'Entraide et Fraternité, donc qui mènent le même combat qu'elles, en fait, donc en Europe et plus particulièrement en Belgique.
Merci beaucoup. Je ne peux que vous souhaiter une bonne action et vraiment que la conscience de vos auditeurs, de nos auditeurs, répondre à ces besoins. Monsieur Patient, vous me semblez un homme patient et sage. Est-ce que je peux vous inviter à résumer un petit peu votre intervention par un proverbe de chez vous?
Il y a beaucoup de proverbes. Chez nous, on dit que... Je ne sais pas si je dois les dire en langue locale.
Autrement, oui, s'il vous plaît.
Non, j'utilise ma langue maternelle parce que celle-là, elle est beaucoup plus profonde et significative. Chez nous, on dit, où je traduis, à chaque pas qu'on fait, chaque pas qu'on fait est le résultat à la fois d'une expérience et d'une réflexion.
Et en langue locale?
la langue locale, Umana Mushi, moi je suis un Mushi, c'est chez nous, Gasigashando, Namuigashu.
Merci voilà. Beaucoup, on peut que vous souhaiter cette sagesse-là. On vous remercie de votre intervention, nous souhaitons sur les routes de Belgique, quand vous témoignez, bonne chance et que vous touchez le cœur de ceux qui vous écoutent pour qu'ils participent à votre espérance pratiquement. Bon carême, nous aussi, Madame Le Garrois, bonne action.
Merci beaucoup.
Merci.
Et je dirais aux auditeurs, quand vous avez l'occasion de voir les informations et le témoignage de notre témoin d'aujourd'hui, je vous souhaite vraiment une écoute attentive. Merci beaucoup de votre attention, de votre suivi. À la prochaine rencontre. Vous étiez à l'écoute de l'émission Rencontrer l'Afrique. À l'écoute des Africains, de leur communauté humaine et religieuse, leur culture et tradition et leur Église. La paix avec vous, chers auditeurs et chères auditrices.